et merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce colloque qui m'a permis d'aller voir ce qui se passait du côté des bibliothèques populaires en Angleterre. Ça a été une recherche un peu compliquée, d'où mon titre, Introuvable bibliothèque populaire anglaise, mais je dois aussi avouer que c'est un plagiat. J'ai plagié le titre d'une partie d'un livre de Jean-Yves Mollier à ma droite, La lecture et ses publics, une partie qui s'appelle L'introuvable bibliothèque du peuple. Donc je me suis aperçue très vite, malgré les envois d'Agnès qui m'a très gentiment envoyé des articles qu'elle avait trouvés sur Gallica avec marqué bibliothèque populaire anglaise. Vous verrez d'ailleurs que j'ai mis un petit lexique pour ceux qui ne connaîtraient pas suffisamment l'anglais pour pouvoir traduire les termes que je vais utiliser ou évoquer. Non, c'était pas ça. Les articles en question, ils parlaient bien de popular libraries en Angleterre, mais c'était pas des popular libraries, ça n'existait pas, les bibliothèques populaires, sauf exception, comme vous le verrez dans mon article, puisque je commence par parler des recherches que j'ai faites pour trouver au moins une ou deux fois l'expression utilisée, mais c'est très rare. Donc il y avait un petit problème, puisque d'une part ça n'existait pas en Angleterre et que d'autre part on l'employait à tort en France. Alors il faut remettre un petit peu le contexte, remettre les choses dans leur contexte. La période victorienne qui va être au centre, enfin le 19e siècle qui va être au centre de cette communication, elle est une période où l'alphabétisation bat son plein, si je puis dire, du moins du côté des organismes religieux et des associations philanthropiques, mais religieuses, confessionnelles toujours, qui veulent éduquer les classes populaires en leur apprenant à lire. Et pourquoi leur apprendre à lire? Pour lire la Bible. Donc c'est quand même très ciblé et très limité. En plus, on est dans le contexte de deux valeurs dont j'évoque l'une ici, la notion de self-help, qui est extrêmement importante au XIXe siècle, qui se traduit difficilement. Le reflet de l'expression « aide-toi, le ciel t'aidera ». J'ai trouvé dans Lingui une traduction que vous connaissez tous, ce merveilleux dictionnaire en ligne, une traduction par effort personnel que je trouve effectivement assez satisfaisante parce que rien d'autre ne va. L'auto-aide, non, l'auto-assistance, c'est pas ça. C'est l'idée qu'on s'en sort tout seul. C'est par soi-même, par sa volonté, par ses efforts qu'on s'en sort. Donc self-help est important et cette valeur parcourait toutes les couches de la société britannique. Donc même les classes populaires, même les couches inférieures de la société devaient se débrouiller pour s'en sortir par eux-mêmes. La deuxième valeur, c'est la respectabilité. Alors, la respectabilité, c'est aussi un mot qu'on trouve partout au XIXe siècle, et c'est vraiment une notion essentielle. C'est pas la peine que je l'explique, ni que je la traduise, ce terme-là, vous comprenez. Tout le monde se devait d'être respectable, même un ouvrier, même un artisan, et donc, self-help et respectabilité, ça marchait dans le même sens, si vous voulez. Et c'était donc quelque chose qu'on essayait d'inculquer à tous les niveaux de la société. Donc c'est dans ce contexte que j'ai cherché les bibliothèques populaires. J'ai miraculeusement trouvé à la BNF une copie de ce rapport du comité qui va être créé en 1849 pour créer des bibliothèques publiques. Les bibliothèques publiques, ce ne sont pas des bibliothèques populaires, ce sont des bibliothèques destinées à tout le monde. C'est un rapport extrêmement intéressant, qui mériterait d'ailleurs d'être étudié de A jusqu'à Z, qui consiste en fait en entretien de personnalités de tous ordres, de toutes origines, y compris Guizot, et là pour parler de ce qui se passe en France. Les Anglais avaient été extrêmement vexés parce qu'il y avait eu un rapport sur l'état des bibliothèques en Grande-Bretagne, et ce rapport avait prouvé que vraiment ils n'étaient pas à la hauteur des autres pays européens. Donc, très long rapport, beaucoup de personnes interviewées, c'est vraiment un document très intéressant. J'y ai trouvé une fois ou deux le mot populaire, mais c'est à peu près tout. J'ai trouvé ensuite, à force de recherche, j'ai trouvé un livre qui parlait de bibliothèque populaire, mais plutôt dans les zones rurales. Et puis c'était toujours très, très flou, très vague. Donc il fallait continuer à chercher. Et j'ai d'abord regardé ce qui, en France, était pris pour des bibliothèques populaires en Grande-Bretagne et qui ne l'étaient pas. Ce sont les bibliothèques qui sont associées au Mechanics Institute. Alors c'est aussi un mot pas très facile à traduire. Je fais une parenthèse sur les termes qui décrivent les ouvriers. Il y en a plusieurs, mais mechanics, ce ne sont pas les mécaniciens. Dans mon livre sur la lecture en Grande-Bretagne, je traduis ça par Institut pour les travailleurs manuels, c'est établissement pour des travailleurs manuels. Et en général, ces instituts avaient des bibliothèques. Ces instituts avaient été créés effectivement en direction des couches populaires ou en tout cas travailleuses, mais le problème c'est que très vite on s'est aperçu que ce n'était pas du tout ces gens-là qui venaient. Les ouvriers étaient trop fatigués à la fin de la journée Et donc, le public de ces bibliothèques a été une des publics de classe moyenne, de col blanc, disons, plutôt que de col bleu. C'est pour ça que la France se trompe quand elle traduit ça par les merveilleuses bibliothèques populaires anglaises. Non, c'est pas ça du tout. Au départ, ce sont des instituts d'éducation populaire, et à ces instituts sont associés des bibliothèques. J'ouvre une parenthèse à ce sujet-là. Ces bibliothèques ont été tout de même très importantes, parce que plusieurs d'entre elles vont constituer le fonds des bibliothèques publiques et gratuites qui vont se créer à la suite de la loi de 1850, qui est la conséquence de la commission de 1849. Donc on ne peut pas les écarter complètement. Et puis, dans certains cas seulement, un institut de ce type peut être créé et géré par des ouvriers, mais c'est assez exceptionnel. Donc, non, ça ne marche pas, elles ne sont pas populaires, ces bibliothèques, donc je suis toujours à la recherche de mes bibliothèques populaires. Alors, il faut savoir que parallèlement à ce que j'ai dit sur l'importance de la religion, on va avoir aussi toute une série de mouvements sociaux radicaux, en particulier autour des années 48 avec le mouvement chartiste, qui, bien sûr, vont se préoccuper de l'éducation populaire, donc des bibliothèques. Ça ne s'est pas fait systématiquement, mais il est certains que des bibliothèques de ce type ont été tentées. Il y a eu aussi les bibliothèques d'usine, mais les bibliothèques d'usine étaient faites des patrons qui voulaient éduquer les ouvriers pour avoir un personnel plus efficace, plus respectable, et bien sûr pour les contrôler. Après ça, qu'est-ce qui reste? On est quand même un peu démunis, et il faut bien sûr trouver des exemples de bibliothèques associées à une autre appellation. Et donc là, vous avez une liste des bibliothèques, certaines bibliothèques qui ont été créées. Donc Factory Library, j'en ai parlé. Et on arrive aux trois dernières catégories de bibliothèques. La Working Class, bon, qui, comme son nom l'indique, est une bibliothèque destinée à la classe ouvrière. Les Working Men's Club, qui sont des clubs de travailleurs, avec tout ça avec des bibliothèques. Et les Miners Library sont mentionnés de manière spécifique parce qu'ils ont joué un rôle très important. Et eux, là, on a affaire vraiment à des bibliothèques populaires. Alors, sans entrer dans le détail, je vous renvoie à l'article qui est dans l'ouvrage de ce colloque. Je vais tout de même expliquer un petit peu comment se créaient ces bibliothèques qu'on peut qualifier de populaires. Ce dont je parle maintenant, ce sont des bibliothèques qui sont créées et gérées par des ouvriers. Ce sont des bibliothèques dont les créateurs sont propriétaires des livres. Bien sûr, on les trouve surtout dans les régions industrielles du nord de l'Angleterre. Et en Écosse. L'Écosse est une région que je regrette de ne pas avoir étudiée plus jusqu'à présent, parce que c'est une région encore plus pionnière en matière d'alphabétisation et en matière d'éducation populaire. Et puis il y a aussi le pays de Galles, pays de mineurs. Donc les premières bibliothèques vraiment populaires se trouvent dès le milieu du XVIIIe siècle au pays de Galles. On a aussi un phénomène donc, que je veux évoquer qui, moi, me semble tout à fait l'équivalent d'une bibliothèque populaire, à moins que je me trompe, mais comme l'a dit Agnès tout à l'heure, on ne sait plus très bien ce que c'est qu'une bibliothèque populaire. Le phénomène des bibliothèques dans les cafés. Coffee house, ça veut dire café. Les bibliothèques dans les cafés, ça voulait dire quoi? C'est qu'il y avait une pièce où il y avait des livres, des tables, des chaises, et on pouvait venir lire des livres. La presse, bien entendu, importante. Et vous ne payez pour cela que le prix d'un café. C'était extrêmement positif par rapport au pub qui existait déjà et au phénomène de l'alcoolisme qui est aussi une des raisons pour lesquelles on a cherché à créer des bibliothèques publiques en Angleterre. C'est pour essayer de détourner les ouvriers des pubs vers les bibliothèques. Les coffee houses, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a des études spécifiques. Moi, je ne parle pas de sources primaires, malheureusement, c'est des sources secondaires. Dans les coffee house libraries, il y avait pas seulement des livres instructifs, aussi des romans, le roman étant une catégorie suspecte pour beaucoup dans le fond des bibliothèques. Les bibliothèques de clubs d'ouvriers fonctionnaient de manière totalement coopérative, de même que les bibliothèques de sociétés coopératives. Donc il y a eu aussi tout un phénomène de sociétés coopératives, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes se réunissait, se cotisait pour acheter un fonds d'ouvrage, et se les échangeait, éventuellement les achetait ou les récupérait, plus exactement, se les partageait une fois que tout le monde les avait lus. Alors, le cas le plus intéressant de côté bibliothèque populaire, c'est sans aucun doute le cas de la bibliothèque de Nottingham, dans les Midlands, qui est une bibliothèque operative, hein, c'est un des termes que j'utilise, qui a été créée dès les années 1830. Elle a un premier article de son règlement qui est très intéressant, qui dit ceci. Les objectifs de cette association sont la dissémination de savoirs utiles et distrayants. Et comme la politique concerne notre bien-être ici-bas, et que la religion affecte notre bonheur dans l'au-delà, et que nous croyons qu'aucune institution politique ne devrait exister sans avoir été l'objet d'une analyse, et qu'on ne devrait adhérer à aucune croyance sans en avoir discuté, nous décidons en conséquence d'acheter des ouvrages de toutes sortes, politiques et théologiques, ainsi que ceux qui traitent d'histoire, de science ou de littérature. Donc on a là vraiment une explication très claire de la raison de la création de cette bibliothèque. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas seulement une bibliothèque de ce type à Nottingham, il va s'en créer toute une série, quasiment certainement, en raison de l'importance de l'implantation du mouvement chartiste dans cette région. La bibliothèque et bien entendu l'éducation populaire étaient considérées comme le levier indispensable au progrès de la classe ouvrière afin de leur permettre d'accéder aux privilèges électoraux, dont vous savez que c'était le combat essentiel du chartiste, c'est d'obtenir une modification de la représentativité électorale. Ces bibliothèques-là étaient fondées sur l'autogestion. Les membres acceptaient de participer au fonctionnement de la bibliothèque sans recevoir aucun salaire. Le droit d'entrée était limité, parce que j'ai oublié de dire que ces bibliothèques, en général, demandaient un droit d'entrée et une cotisation annuelle, mais qui était vraiment minime. Le droit d'entrée dans cette bibliothèque-là était de 6 pennies, 6 pence ou d'un shilling. Je pense que mon voisin saurait nous dire exactement ce que ça fait aujourd'hui, mais il est en train d'écrire, je ne sais pas. Et une cotisation hebdomadaire quand même, d'un penny, c'est-à-dire très très peu de choses. Les heures d'ouverture étaient très larges, comme toujours en Angleterre. Moi j'ai connu à Sheffield une bibliothèque où j'ai fait de la recherche, et où on pouvait rester jusqu'à 10h du soir. Donc là, en l'occurrence, à Nottingham, la bibliothèque était ouverte pendant une heure, donc pas beaucoup, mais un ou deux ou trois soirs par semaine, mais n'oublions pas que les gens qui s'en occupent sont bénévoles, et en plus deux ou trois heures le samedi matin. Il y avait des réunions mensuelles ou trimestrielles au cours desquelles on discutait des achats à faire et où on prenait des décisions si certains membres avaient disparu dans la nature et où on élisait ou réélisait les responsables. Malheureusement, pour toutes ces bibliothèques, comme souvent pour les bibliothèques populaires, on n'a pas beaucoup de catalogues, on n'a pas beaucoup de registres des inscrits. Ce qu'on sait, c'est qu'un des grands historiens de l'histoire des bibliothèques en Angleterre, qui s'appelle Peter Hall, dit que, bien sûr, il y avait un nombre élevé de romans, mais aussi de la poésie, des biographies, des ouvrages d'histoire et des volumes regroupés sous le chapeau « Natural Philosophy, Manufactures, Politics, Theology ». Philosophie naturelle, un peu ambigu. Manufacture, c'est intéressant, c'est les industries, les usines, politique, la politique, théologie, etc. Et là, on trouve des ouvrages de Thomas Paine et d'Adam Smith, donc ce qui montre bien que politiquement, c'est quand même, je ne sais pas s'il faut dire orienté, en tout cas, c'est extrêmement ouvert. Alors, d'autres bibliothèques de ce type existent dans la région, j'aurai d'autres exemples à vous donner. On y trouve toujours ou presque des romans de Walter Scott et de Fanny Mae Cooper. C'est vraiment les deux grands romanciers qu'on trouve partout dans toutes sortes de bibliothèques. Et ce qui est intéressant dans cette petite ville de la région aussi de Nottingham, j'ai trouvé un article sur une bibliothèque spécifique, il y avait une séance de discussion régulière, donc on retrouve bien le schéma classique. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est ce qui serait le plus proche d'une bibliothèque populaire. Là, il s'agit de Manchester, donc c'est une autre ville de la région industrielle. Et là, vous avez l'origine sociale, les métiers des différents lecteurs, maçons, courtiers, ébénistes, etc., etc. Beaucoup, beaucoup. Alors, clerks, c'est la catégorie la plus importante. C'est le mot qui veut dire employé. C'est le col blanc, en quelque sorte. Des coiffeurs, des chapeliers, enfin, vous voyez. Énorme variété. Il y a même des enseignants. C'est une bibliothèque qui est quand même très variée. La grande bibliothèque publique de Manchester, quand elle sera créée, sera ouverte par Dickens. Mais c'est autre chose. On n'est plus dans le domaine de la bibliothèque populaire. Alors, je vais conclure rapidement en disant que, bien sûr, on ne trouve pas l'appellation « popular libraries », mais, en fait, elles existent sous différents noms, utilisées de manière assez vague et imprécise. Leur création et leur organisation ont été variées, selon qu'elles ont été le fait d'employeurs. Alors là, je suis plus sceptique, mais il y a quelques employeurs quand même qu'on voit qui ont une orientation sociale et qui sont prêts à faire les choses sans trop intervenir. Les associations philanthropiques et les ouvriers eux-mêmes. Certaines de ces bibliothèques ont perduré jusqu'à la fin du XIXe siècle, malgré la création des bibliothèques publiques en 1850. Les bibliothèques publiques créées à la suite de la loi qui a été votée se créent progressivement, très lentement, et restent surtout fréquentées par les classes moyennes. Il y a une certaine méfiance de la part des classes ouvrières. L'accès des ouvriers, et en particulier la raison pour laquelle les ouvriers n'allaient pas trop dans les bibliothèques publiques récemment créées, c'est qu'il y avait une censure, du moins, il n'y avait pas une très grande ouverture en matière d'ouvrages politiques ou radicaux. Et en plus, les ouvriers ne cachaient pas qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Il y a des choses assez amusantes sur le rapport avec les bibliothécaires de l'époque. Donc, loin de revendiquer un système national de bibliothèques publiques, les lecteurs de la classe ouvrière britannique, soucieux de s'inscrire et de progresser par eux-mêmes, qui est une autre façon de traduire « self-help », préféraient créer leur propre bibliothèque et continuer de les fréquenter malgré l'existence d'une bibliothèque publique. C'est bien là, à mon avis, ce que sont les véritables bibliothèques populaires de la Grande-Bretagne, fonctionnant démocratiquement au service du progrès individuel, valeur fondamentale intégrée par toutes les couches de la société victorienne. Merci.